2. Domaine, science. Sujet 2. Page 200. Document sonore numéro 12. Activité 215.
C'est une première mondiale. Dimanche 27 novembre 2005, une femme s'est réveillée avec le visage d'une autre. Enfin presque. Elle a en fait subi une greffe partielle de la face qui ne concerne que le nez, les lèvres et le menton. Mais tout de même, pour ceux qui se souviennent du film Volte-face avec Nicolas Cage et John Travolta qui échangent leur visage au cours du film, la transplantation d'un visage prélevé sur un cadavre vers une personne vivante ne fait plus partie du domaine de la science-fiction, mais bien de celui de la réalité. Et ce sont des chirurgiens français qui ont pratiqué cette opération. Avec nous, donc, les professeurs qui ont réussi cet exploit. Tout d'abord, le professeur Henri de Frémont, spécialiste de chirurgie maxillofaciale au CHU d'Amiens. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Pascal Lefébure, chef de service de chirurgie à l'hôpital de Lyon.
Bonsoir.
Nous accueillons également le professeur Saïd Boutaïa, membre du comité consultatif national d'éthique. Car comme vous le savez, cette intervention à haut risque a suscité une véritable polémique au sein du domaine médical. Professeur Boutaïa, bonsoir.
Bonsoir.
Notre émission de ce soir sera donc consacrée aux dimensions médicales, psychologiques et éthiques de cette première mondiale. Mais en premier lieu, retour sur l'événement qui a fait couler tant d'encre dans la presse. Professeur de Frémont, beaucoup de personnes s'interrogent. Cette greffe partielle de visage était-elle la seule option thérapeutique ?
Oui, absolument. Nous avions en face de nous une patiente qui était défigurée après avoir été mordue par son chien et qui ne pouvait pas être réparée par une technique conventionnelle.
Ça m'étonnerait bien. Pourquoi cette patiente n'aurait pas pu être traitée par des procédés plus conventionnels ? Sa vie n'était pas menacée, que je sache. Et aucune tentative de reconstruction classique n'avait été tentée. Vous étiez dans la pure expérimentation.
Le recours à cette technique s'est imposé d'emblée à l'équipe chirurgicale comme étant le moyen le plus approprié. Et nous avons sollicité l'avis de plusieurs experts qui nous ont confortés dans notre opinion. Compte tenu du type de lésion faciale, aucune chirurgie réparatrice classique par autotransplantation de tissu n'était à même de transformer son état. Et donc, seule une allogreffe partielle de la face pouvait permettre de réduire son handicap.
Oui, et quand elle a enlevé son masque, je n'ai plus d'hésitation. Si ça avait été une de mes deux filles, ça aurait été la même chose. Nous, médecins, face à cette situation, notre devoir, c'est de tout faire pour notre patiente. En plus, chaque jour, Isabelle voyait son ouverture buccale diminuer. L'évidence s'est imposée. Seule une transplantation faciale pouvait résoudre son problème.
Et vous étiez vraiment sûr que la patiente possédait bien le profil psychologique pour supporter une telle intervention ?
Cette question était en effet centrale. Était-ce la bonne candidate ? Pouvait-elle le supporter ? Nous nous sommes interrogés tous les jours durant 6 mois. Mais sa force de caractère et sa solidité psychologique nous ont rassurés.
Mais cette femme prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques. En plus, elle fumait encore 2 paquets de cigarettes par jour. Et vous avez jugé que c'était elle la bonne candidate.
Mais avant d'être opérée, elle se passait de tout médicament. Et elle a été suivie par plusieurs équipes d'experts psychiatres. Elle a également décidé d'arrêter de fumer. Je le dis nettement, elle est devenue le chef d'orchestre de sa propre reconstruction physique et psychologique.
Mais si elle peut supporter les conséquences psychologiques de son opération et de son nouveau visage, en dites-vous autant de sa capacité à supporter les assauts médiatiques dont vous l'avez entourée ?
Attendez.
Pour ce qui a trait aux problèmes médiatiques, je peux assurer que nous nous sommes entourés du maximum de protection. Mais je vous concède que je ne sais pas si elle sera capable de répondre à toutes les sollicitations dont elle sera l'objet. Ces interrogations dépassent le strict champ médical et on ne peut y répondre a priori.
Attendez, professeur Boutaïa, nous en parlerons tout à l'heure de cette médiatisation. Mais revenons à l'opération, si vous le voulez bien. Professeur Lefébure, expliquez-nous assez simplement en quoi a consisté cette intervention.
Eh bien, cette opération est la plus complexe du genre jamais entreprise. Nous avons tout d'abord effectué de manière chirurgicale une dissection sur la donneuse en état de mort cérébrale depuis 6 heures. Nous avons délimité les zones faciales à prélever, c'est-à-dire le triangle menton, lèvres et pointe du nez, et nous avons retiré d'un seul tenant la peau et la graisse attenante, les muscles, les veines et les os du visage sur cette personne. Nous avons ensuite greffé l'ensemble de ces composants sur notre patiente, la receveuse. Cette deuxième partie de l'intervention a duré 15 heures. Elle est très complexe car il faut veiller à bien reconnecter les terminaisons nerveuses entre elles et les vaisseaux sanguins entre eux. L'enjeu principal est de bien vasculariser le greffon. Il s'agit là de techniques de microchirurgie très avancées. Et puis, tout à la fin, nous avons reconstitué les tissus de la peau depuis le menton jusqu'à la racine du nez. En fait, on peut dire que l'opération s'est déroulée dans des conditions quasi parfaites et la patiente s'est remise très rapidement de l'opération.
Alors justement, parlons de la patiente. Tout n'est pas terminé pour elle, bien au contraire. Que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, après la greffe, nous avons mis en place un traitement anti-rejet. Vous devez savoir que les risques que l'on redoute le plus souvent sont la survenue de rejet du greffon et les effets secondaires liés au recours d'un traitement immunosuppresseur sur le long terme. Pour le moment, tout va bien.
Vous oubliez de dire qu'il y a quand même eu un épisode de rejet à la troisième semaine.
Oui, monsieur Boutaïa, mais il a pu être contrôlé et la situation est revenue à la normale. Bien sûr, on ne peut absolument faire aucun pronostic pour l'avenir, mais aujourd'hui, la situation est favorable. Et si elle continue dans cette voie, le traitement immunosuppresseur sera allégé progressivement.
J'espère en tout cas que la patiente a bien compris que le traitement immunosuppresseur est à vie et qu'il existe des risques de rejet qui sont de l'ordre de 10 à 30% durant les 10 années suivant la greffe.
Toutes les dispositions ont été prises pour que la patiente soit informée très clairement et très complètement de l'intervention chirurgicale et des risques psychologiques et des contraintes qu'elle engendre.
Je persiste à penser que cette greffe de visage était déraisonnable car cette alternative ne permet pas de revenir en arrière. En cas de rejet ou d'infection, cela supposerait l'ablation des autotransplantations subies auparavant. Alors le remède serait pire que le mal.
Je tiens à ajouter que plus de 2 mois après l'opération, la patiente montre des signes de récupération de la sensibilité. On a pu constater qu'elle va très bien au plan médical et psychologique, et c'est le plus important.
Alors, je crois savoir que la patiente se trouve à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon pour 6 semaines. Qui fait-elle ?
Elle y suit une rééducation. Des kinésithérapeutes, habitués à la chirurgie faciale ainsi que des orthophonistes, l'aident à retrouver au plus vite l'élocution et toutes les fonctions labiales. Elle bénéficie en plus d'un soutien psychologique.
Et maintenant, tout risque de rejet est-il écarté ?
Non, et il ne le sera jamais. On sait que le 3e mois est un cap difficile. On est donc particulièrement vigilant.
Ce n'est que dans les 12 à 18 mois qui suivent la greffe que le résultat de cette première sera évalué.
Bien, alors parlons à présent de la polémique qui a enflé suite à cette greffe de visage. Professeur Boutaïa, cette première mondiale est très controversée par de nombreux spécialistes. Pourquoi ?
Mis à part les énormes risques encourus, il faut également penser aux conséquences psychologiques d'un tel geste. En effet, comment est susceptible de réagir un individu qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un nouveau visage ? Et il ne faut pas oublier non plus l'entourage du patient qui est habitué à le voir avec son ancien visage. Et il faut enfin imaginer le choc de l'entourage de la personne qui a généreusement donné son visage et qui retrouve en quelque sorte une personne ressuscitée.
Allons, allons, vous savez aussi bien que moi que le visage greffé ne ressemblera pas à celui de la personne décédée. Tout simplement parce que l'ossature du receveur est conservée. Le résultat final ne ressemble ni au visage du donneur, ni au visage du patient avant le traumatisme. En 2 mots, même si l'on vous greffait le visage de Brad Pitt ou de Jennifer Lopez, vous n'auriez aucune chance de ressembler à votre star préférée. Quant à la crise d'identité quasi inévitable, les patients concernés la vivent déjà.
En tout cas, j'estime que le changement de visage d'un individu sur le plan éthique n'est pas acceptable.
Vous ne croyez pas que les grands brûlés et les patients qui présentent un visage difforme peuvent mettre un terme à leur cauchemar grâce à ce genre d'opération ? Enfin, monsieur Boutaïa.
Mais dans ce genre de cas, on estime qu'il est impossible pour le patient de donner un consentement authentique, compte tenu des risques et de l'impossibilité de garantir le résultat final. On estime plutôt que la demande pour une allotransplantation de la face correspond en fait à une demande des chirurgiens soucieux de mettre au point cette technique.
Ne s'agit-il pas plutôt de rivalité entre médecins ? De réels problèmes déontologiques existent-ils ?
Bien sûr que oui ! Vous n'avez qu'à voir l'emballement médiatique de cette première transplantation partielle de visage par les équipes hospitalières, loin du principe de précaution. 3 mois avant l'intervention, le professeur Defrémont avait négocié les contrats d'exclusivité avec Paris Match pour des photos de la patiente et un documentaire tourné pendant l'opération.
Ce genre d'intervention est spectaculaire et attire forcément l'attention des médias. Donc, nous avons voulu protéger la patiente de dérives médiatiques.
C'est surtout le début inquiétant d'une médecine spectacle. Et quels seront les effets de cette surmédiatisation sur la santé de la receveuse, dont l'état psychologique est déjà mis à rude épreuve ? Je crois savoir qu'elle demande maintenant qu'on la laisse en paix, qu'elle se sent bousculée et qu'elle veut qu'on laisse sa famille en paix.
Tiens, vous lisez les journaux.
Je vous en prie. Bon, en plus, le principe de l'anonymat a été bafoué. Moins de 2 semaines après la greffe, des journaux britanniques ont révélé l'identité de la femme qui a donné le bas de son visage.
Cela a provoqué notre indignation, croyez-le bien.
Alors, malgré la polémique qu'a suscité cette opération, professeur de Frémont, envisagez-vous de greffer d'autres visages?
Nous allons en effet demander au ministère de la Santé l'autorisation de pratiquer 5 nouvelles greffes du visage. On va faire en sorte que d'autres patients bénéficient de ce progrès.
Selon vous, de telles greffes ou des greffes totales de visage vont-elles se développer?
Il n'y a pas de différence technique entre une greffe partielle ou totale. Nous sommes donc aptes à la mener, mais la greffe totale de visage est pour l'heure un fantasme. En plus, s'il y avait rejet, ce serait alors dramatique, car il faudrait enlever toute la face reconstruite.
En tout cas, si cette transplantation partielle de visage se révèle être un succès, alors elle pourrait être encouragée pour certains cas graves.
Mais la médiatisation de cette première ne doit pas faire oublier les risques liés au traitement immunosuppresseur ou au danger de rejet et les progrès des techniques de reconstruction traditionnelles.
Mais on voit mal comment refuser à certains cas graves une greffe totale de visage. Là encore, la dimension humaine de la médecine prévaut sur le progrès technique.